Le convoi franchit les murs de la ville. Après un quart de lieue et une fois les faubourgs traversés, apparut dressé sur une butte le gibet de Montfaucon. Rebâti dans les années récentes sur l'emplacement du vieux gibet qui datait de Saint-Louis, Montfaucon se présentait comme une grande halle inachevée sans toit. 16 piliers de maçonnerie, debout contre le ciel, s'élevaient d'une vaste plateforme carrée qui, elle-même, prenait assise sur de gros blocs de pierre brute. Au centre de la plateforme s'ouvrait une large fosse qui servait de charnier. Et les potences s'alignaient le long de cette fosse. Les piliers de maçonnerie étaient réunis par de doubles poutres et par des chaînes de fer où l'on accrochait les corps après l'exécution. On les y laissait pourrir au vent et aux corbeaux pour servir d'exemple et inspirer le respect de la justice royale. Ce jour-là, une dizaine de corps se trouvaient suspendus, les uns nus, les autres habillés jusqu'à la ceinture, et les reins seulement ceints d'un lambeau de toile, selon que les bourreaux avaient eu droit à tout ou partie des vêtements. Certains de ces cadavres étaient presque déjà à l'état de squelette, d'autres commençaient à se décomposer, la face verte ou noire, avec d'affreuses liqueurs suintant des oreilles et de la bouche, et des lambeaux de chair arrachés par le bec des oiseaux rabattus sur les étoffes. Une odeur horrible se répandait alentour. Une foule tôt levée, nombreuse, était venue assister au supplice. Les archers formaient cordon pour en contenir les remous. Lorsque Marigny descendit de la charrette, un prêtre s'approcha et le convia à faire l'aveu des fautes pour lesquelles il était condamné. « Non, mon père, » dit Marigny, « il n'y a à avoir voulu envoûter Louis X et aucun prince royal, ni avoir volé dans le trésor, ni à tous les chefs d'accusation qu'on avait portés contre lui, et réaffirma que les actions qu'on lui reprochait avaient toutes été commandées ou approuvées par le feu roi son maître. Mais j'ai accompli pour de justes causes des actes injustes, et de cela je me repens. » Précédé du maître bourreau, il gravit la rampe de pierre par laquelle on accédait à la plateforme, et avec cette autorité qu'il avait toujours eue, il demanda en désignant les potences « Laquelle ?» Comme du haut d'une estrade, il jeta un dernier regard sur la multitude hurlante, il refusa d'avoir les mains liées. « Qu'on ne me maintienne point !» Il releva lui-même ses cheveux et avança sa tête de taureau dans le nœud coulant qu'on lui présentait. Il prit un grand souffle pour garder le plus longtemps possible la vie dans ses poumons, serra les poings. La corde, par six bras tirés, s'éleva à deux toises du sol. La foule, qui pourtant n'attendait que cela, poussa une immense clameur d'étonnement. Durant plusieurs minutes, elle vit Marigny se tordre, les yeux exorbités, la face devenant bleue, puis violette, la langue sortie, et les bras et les jambes s'agitant comme pour grimper le long d'un mât invisible. Enfin, les bras retombèrent, les convulsions diminuèrent d'amplitude, s'arrêtèrent, et les yeux n'eurent plus de regard. Et la foule, toujours surprenante parce que toujours surprise, se tut. Valois avait ordonné que le condamné restât entièrement habillé afin de demeurer mieux reconnaissable. Les bourreaux descendirent le corps, le tirèrent par les pieds à travers la plateforme, puis, dressant leurs échelles sur le devant du gibet, du côté de Paris, ils suspendirent aux chaînes pour l'y laisser pourrir entre les charognes de malfaiteurs inconnus, l'un des plus grands ministres que la France ait jamais eus.